Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
La dette aujourd'hui, c'est nos limites. Conséquence des politiques monétaires des banques centrales, s'endetter ne coûte plus rien et rapporte même de l'argent. De nombreux investisseurs paient pour prêter à des États parfois surendettés et même à de grandes entreprises. Le monde à l'envers. Guillaume Benoît du service marché des Échos nous avait expliqué le principe dans un précédent épisode de La Story que je vous invite à aller écouter. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander si la dette, c'est de la rigolade.
En France, la dette publique dépasse presque le total de la richesse nationale, 99% du PIB, soit presque 2300 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2018.
La dette publique de la France approche des 100% du PIB. C'est-à-dire que pour la rembourser d'un coup, il faudrait y consacrer 100% de la richesse nationale créée en un an. Sachant qu'une dette se rembourse petit à petit, moyennant des intérêts. Mais ce n'est pas tout. Selon le FMI, la dette mondiale représenterait 164 000 milliards de dollars en 2016. Vous êtes sans doute comme moi et vous avez du mal à vous représenter cette somme folle. Cela représente plus de deux fois le PIB mondial et ce chiffre n'a sans doute pas fini de monter. Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux Échos. Il me l'a confirmé, le monde n'a jamais été autant endetté.
Effectivement, il n'y a jamais eu autant de dettes dans le monde. D'après les chiffres de la Banque des règlements internationaux qui collecte à l'échelle mondiale tous ces chiffres, nous serions autour de 230% du PIB mondial. Avant la crise, la grande crise de 2008, qui était une crise de la dette, on était à 200%. Donc on est sorti d'une crise de la dette avec encore plus de dettes. Jamais le monde n'a dû autant d'argent à ses descendants. Cette dette, c'est chacun de nous. C'est l'État quand il emprunte. C'est vous et moi. Nous empruntons pour acheter notre logement ou une voiture. Ce sont les entreprises pour financer leurs investissements. La vraie question derrière, c'est pourquoi accepte-t-on de prêter autant ? Et là, derrière, il y a évidemment le jeu des investisseurs, des gens qui acceptent de prêter leur argent. Et puis, il y a le jeu des banques centrales. Mais la vraie question derrière, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acheteurs de cette dette. Il y a un débat très animé actuellement. Pour certains, c'est l'équilibre entre l'épargne et l'investissement qui a changé. Les épargnants sont très nombreux. Ils veulent notamment préparer leur retraite via des investisseurs institutionnels. Et l'investissement, lui, coûte moins cher parce qu'il y a eu beaucoup de progrès techniques et aussi parce qu'il y a peut-être beaucoup de doutes dans l'avenir. Et donc, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement serait très différent de ce qu'il était auparavant et ferait baisser les taux d'intérêt, ferait qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter de la dette que de gens qui veulent en fabriquer. Pour d'autres, et j'ai tendance à plutôt faire confiance à ceci, c'est le jeu des banques centrales qui est déterminant. Les banques centrales, depuis la grande crise financière, ont acheté massivement des titres de dette publique, mais aussi de la dette privée. Et donc, ça pèse sur le marché, ça permet au taux d'intérêt de baisser, voire de devenir négatif. Et ça fait aussi qu'il devient beaucoup plus facile d'émettre de la dette.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette hausse de l'endettement, on est passé de 200 à 230% du PIB mondial, et devrait avoir pour effet plutôt de faire monter les taux. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus ?
L'économie mondiale a complètement changé et on ne la comprend pas. Plus très bien. Le marché des biens est devenu un marché mondial avec des échanges de marchandises dans tous les sens. Et on ne comprend plus comment se forme l'inflation. Le marché du travail a aussi complètement changé sous l'effet des technologies, sous les effets aussi de la montée en puissance de pays nouveaux. Et le marché de l'argent, enfin, a lui aussi été bouleversé par une mondialisation et par des circuits qui sont extrêmement différents.
Vous êtes en train de faire peur, comme d'habitude, aux gens avec la dette. La dette, c'est de la rigolade. On compare un stock de dette dû par la France à une année de production, c'est-à-dire on compare un stock à un flux.
En 2016, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, avait pris à partie le journaliste François Langlais sur France 2, accusé de vouloir faire peur aux Français avec la dette. La presse évoque souvent cette dette que nos enfants et petits-enfants devront rembourser à notre place, ce qui est assez égoïste. Jean-Marc, la dette, c'est de la rigolade ?
Oui et non. Quand on regarde dans l'histoire très ancienne, tous les demi-siècles, il y avait un jubilé où on annulait toutes les dettes, carrément. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile d'annuler ces dettes. Et en même temps, quand on a des taux zéro, ces dettes, les États peuvent les refinancer à coût nul. Donc, on pourrait dire que finalement, ça n'est pas très important. Mais la dette, ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit de l'argent. C'est aussi quelqu'un qui en prête. Ce quelqu'un, c'est l'épargnant. Si vous annulez les dettes ou si les dettes ne rapportent plus rien, l'épargnant ne touche plus rien. Alors on pourrait dire ce n'est pas grave, l'épargnant c'est un méchant riche. Le problème c'est que ce n'est pas que ça. Il y a aussi des millions, des dizaines de millions de futurs retraités. Dans cet équilibre des prêteurs et des emprunteurs, c'est tout un équilibre social qui est en jeu. Et dans cet équilibre se joue d'ailleurs la mécanique de l'inflation. Dans les années 1970-1980, la génération du baby-boom avait besoin d'inflation pour emprunter. Et donc, elle a emprunté massivement. Ensuite, une fois qu'elle est arrivée dans la quarantaine, la cinquantaine, cette génération a eu besoin de surtout plus d'inflation parce qu'elle commençait à constituer son épargne retraite. Et comme par hasard, à ce moment-là, on a rendu les banques centrales indépendantes, on a arrêté d'avoir de l'inflation. Et donc, cette génération s'est à nouveau enrichie. Maintenant, cette génération, elle arrive à l'âge de la retraite et elle voudrait toucher son argent. Le problème, c'est que on a eu une mécanique qui a été tellement tordue de partout que cette génération qui a pu endetter à bon prix et ensuite qui a pu épargner avec des rendements apparemment mirobolants, eh bien cette génération, cette fois-là, elle ne va pas être satisfaite. Il va y avoir une heure de vérité pour les rentiers qui va être assez terrible.
Alors, on parle beaucoup effectivement de cette dette de l'État qui a augmenté. On a bien compris qu'il y avait un refinancement qui était très simple. Mais une dette, c'est fait pour être remboursée. Il va bien falloir la rembourser à un moment.
Chaque année, l'État français rembourse de la dette. Mais il réemprunte aussitôt. Et il réemprunte aussitôt en payant de moins en moins cher. Le poids de la dette française était 4 fois moins élevé il y a 30 ans, avec un service de la dette qui était 2 fois plus important. Aujourd'hui, l'État rembourse. Et quand il rembourse, il gagne de l'argent parce qu'il réemprunte moins cher, voire à taux négatif. Donc, bien sûr que cette dette doit être remboursée, mais elle cède immédiatement la place à une autre dette que les investisseurs achètent puisqu'ils en ont besoin. Et cette dette existe parce qu'il y a des investisseurs qui l'achètent, parce qu'ils en ont besoin pour garnir leur portefeuille, pour assurer de l'épargne.
Pour l'État, il y a aussi une question, un débat qui est en train de monter, c'est est-ce qu'il ne faut pas profiter de ces taux bas finalement pour investir, dépenser, quitte à faire plus de dettes encore ?
Ce débat est effectivement très vif aujourd'hui et il va encore se renforcer. Quand l'État gagne de l'argent en empruntant, il paraît assez logique de se dire qu'il faut qu'il emprunte davantage. Il y a ici deux questions. La première, c'est comment investir aujourd'hui efficacement davantage ? Cette question, elle n'est pratiquement pas posée aujourd'hui, alors qu'elle est absolument essentielle. Si, par exemple, on triple demain le budget de l'université en France, on peut dire les universités sont dans un état effroyable, il leur faut beaucoup plus d'argent. Avec la structure actuelle de l'université, si on triple demain le budget de l'université à structure inchangée, l'université ne fonctionnera pas beaucoup mieux. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres domaines. Il y a une vraie question de que faire de cet investissement public ? Il y a une réponse simple qui est financer la transition écologique, mais là aussi, trouver les investissements les plus rentables dans cette transition écologique, c'est quelque chose de compliqué. Le deuxième point, c'est est-on absolument certain qu'on va avoir des taux d'intérêt nuls éternellement ? Parce que si les États accumulent des dettes tout à fait impressionnantes, ces dettes-là ne seront pas remboursées, elles seront refinancées au bout de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans, selon la durée de l'emprunt. Et à ce moment-là, si les taux d'intérêt ont remonté de manière absolument considérable, les États pourraient très vite être étranglés. Et cette question-là, aujourd'hui, personne n'a la réponse.
Oui, parce qu'effectivement, le remboursement de la dette, il coûte de moins en moins cher à l'État, le refinancement de cette dette aussi, avec des taux à 0%. Si les taux remontent à 2, 3, 4, 5%, comme c'était le cas finalement avant la crise, là, il pourrait vraiment y avoir des conséquences très importantes.
Là, ça serait la faillite des États. Ça paraît quelque chose de totalement inconcevable, mais quand on regarde depuis 40 ans, on avait supposé à tort que des faillites ne seraient pas possibles. La grande crise de l'Amérique latine au début des années 80, on avait postulé que des États émergents ne feraient pas faillite. Ils ont fait faillite. La grande crise de 2007-2008, on avait supposé que des émetteurs de papier AAA ne feraient pas faillite, hein, tous les produits titrisés. La faillite a été brutale, massive, et donc on a découvert que c'était possible. L'histoire qu'on se raconte aujourd'hui, c'est que des États avancés ne peuvent pas faire faillite. C'est peut-être possible à condition que les banques centrales continuent de spolier massivement les épargnants, mais ce n'est pas sûr que ce sera toujours le cas.
Alors, pour se prémunir contre ça, les critères de Maastricht prévoyaient notamment que les États de la zone euro devaient respecter un certain nombre de seuils. Alors, en termes de déficit public, les fameux 3% de plafond de la dette, on les a un peu oubliés, pas que la dette dépasse 60% du PIB. Autrement dit, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe, on en est très loin, puisqu'on dépasse pour certains plus de 100%. Est-ce que ces critères ont encore un sens ?
Ces critères correspondent à une autre époque. Ils ont été forgés dans les années 1980, avec des hypothèses macroéconomiques implicites. On supposait qu'il y avait, en gros, une croissance de 3% l'an et une inflation de 2% l'an. Et on pouvait démontrer à ce moment-là qu'il ne fallait pas que la dette publique dépasse les 60%. Aujourd'hui, une croissance de 3% l'an, ça paraît inimaginable, sauf dans des périodes très courtes et exceptionnelles. Une inflation de 2% l'an, on voit bien que les banques centrales, malgré les milliers de milliards d'euros et de dollars qu'elles ont forgés, ne parviennent pas à la stimuler, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Donc, c'est des chiffres d'une autre époque. Mais ces chiffres sont dans des traités gravés dans du marbre institutionnel et c'est extrêmement difficile de les changer.
Est-ce que la prochaine crise viendra de la dette ?
Toutes les grandes crises sont venues de la dette, dette privée, dette immobilière, dette des émergents. Donc la prochaine grande crise viendra fatalement de la dette. Ça serait logique qu'elle vienne de la dette publique. Quand on voit les taux d'endettement, quand on voit les problèmes que ça pose, quand on voit les perturbations déjà induites dans le système par cette accumulation de dettes publiques, la vraie question, c'est de savoir quelle forme prendra cette crise. Et là, on est absolument certain qu'on sera surpris.
Oh, et si j'étais riche ?
En ce moment, l'État n'a qu'à se baisser pour se refinancer. L'agence France Trésor vient ainsi d'émettre plus de 10 milliards d'euros sur le marché obligataire. Un record, signe qu'il y a une demande forte pour les emprunts d'État. Surtout, pour la première fois, le rendement offert aux investisseurs pour ces emprunts à 15 ans sera négatif. En s'endettant, la France s'enrichit.
Il me semble qu'il y a comme une erreur.
Pardon ?
J'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements ?
De mes placements ?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%?
C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent.
Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
Serait-ce donc le moment d'ouvrir grand les vannes du crédit ? N'ayant pas la réponse, j'ai contacté Philippe Wächter. Il est directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Et je lui ai demandé si, compte tenu des taux négatifs, l'endettement des États n'était plus un facteur de risque.
Ça n'est plus perçu, au moins à court terme, comme un problème. Sous une autre forme, les investisseurs ont des inquiétudes sur l'environnement économique. La Banque centrale est très volontariste dans la gestion de la dette publique et de telle sorte que cette inquiétude des investisseurs se traduit par une demande d'actifs de l'État très importante. Et ça se traduit effectivement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, par des taux d'intérêt négatifs, accentuant le caractère de répression financière qu'on observe, parce que la répression financière, c'est finalement pénaliser l'épargnant au bénéfice de l'emprunteur, et la Banque centrale va dans ce sens-là.
Il y a quand même une interrogation autour de ces taux, c'est que l'argent de l'État qui sert à rembourser la dette, qui n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années, ne sert pas à investir dans l'avenir. Sur votre blog, j'ai lu quelque chose d'intéressant, vous écriviez ça le 12 août. « J'attends avec impatience le jour où mes petits-enfants me demanderont pourquoi n'avez-vous pas investi lorsque les taux d'intérêt étaient négatifs ?» Ça aurait pu limiter le réchauffement climatique alors que l'on brûle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ça, c'est la vraie question aujourd'hui. C'est les taux négatifs doivent être une opportunité pour les gouvernements de faire face à cette situation qui, demain ou après-demain, va être très dégradée. En d'autres termes, ce que j'évoquais dans ce poste, c'est de dire, est-ce que nos enfants, dans 20, 30 ou 40 ans, ou nos petits-enfants, ne vont pas nous dire « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ces taux d'intérêt négatifs pour faire les investissements d'infrastructures nécessaires pour que nous, aujourd'hui, nous nous sentions à l'aise dans cette économie. » Et c'est ça l'arbitrage. Et l'arbitrage auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est soit on considère que la dette publique est trop élevée et qu'on ne peut pas faire cela, une vision un petit peu comptable, soit on se dit, effectivement, nos enfants et nos petits-enfants doivent évoluer dans une économie plus favorable que celle qu'on devrait avoir si on ne fait rien. Et donc, c'est cet arbitrage-là qui aujourd'hui est très important. Ça veut dire que l'État doit pouvoir s'endetter en utilisant des taux d'intérêt négatifs, non pas pour faire des dépenses de fonctionnement, comme ça a été souvent le cas, mais des dépenses d'investissement sur l'infrastructure pour que, effectivement, on soit capable de faire face à ce défi climatique dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années.
Pourquoi est-ce que les États ne le font pas ? On voit le cas de l'Allemagne, je ne parle pas de la France ou de l'Italie qui sont déjà très endettés, mais l'Allemagne aujourd'hui qui réduit sa dette, qui emprunte de moins en moins et qui n'investit pas. Pourquoi elle ne le fait pas ?
Sur l'Allemagne, il y a un côté très rigoriste sur la dette. Il y a une espèce de religion qui est que l'État doit n'intervenir que quand cela est nécessaire. Et donc, il n'y a pas du tout cette vision française que l'on peut avoir d'appréhender l'État comme une espèce de régulateur social. Prenons un exemple. En 2009, l'État allemand est intervenu très fortement. On se souvient, il y avait eu un choc terrible après Lehman. L'activité avait chuté et les entreprises allemandes se sont retrouvées à devoir faire beaucoup de travail à temps partiel. L'État a pris en charge une bonne partie de ce travail à temps partiel parce que c'était dans l'intérêt des entreprises et de l'économie allemande. Une fois le choc passé, l'État s'est retiré. Et donc, il y a une espèce d'inconséquence, d'inconsistance temporelle de l'État allemand face à ce type de défi. Et il y a quelques années, Angela Merkel avait pris la décision de réduire le nucléaire. Le charbon reste toujours très actif. Alors, ce type d'arbitrage qui semble difficile dans le modèle allemand.
L'État, donc, on a compris, a une capacité de se refinancer sans cesse en ce moment, à bon compte. Qu'en est-il des entreprises, des ménages ? Est-ce qu'eux aussi peuvent s'endetter indéfiniment dans ce contexte de taux très bas ?
Alors, la situation des ménages et des entreprises est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, que celle de l'État. On voit bien l'idée de l'État. On pourrait imaginer, par exemple, il y a un choc climatique. L'État mutualise ce choc dans le temps, s'endette aujourd'hui pour faire face, et on paiera dans le futur. Ça, l'État peut le faire parce qu'on fait l'hypothèse, à juste titre, que l'État, dans 50, 100 ou 150 ans, sera toujours là. Pour les ménages, pour les entreprises, c'est plus compliqué parce que refinancer sa dette sur des échéances aussi longues, c'est difficilement perceptible. Alors, il y a une autre question aussi qui est que quand on regarde l'évolution de l'endettement des ménages ou des entreprises françaises, et notamment des entreprises, eh bien, on a une progression significative de cet endettement et progression sans réelle fluctuation. Et donc, ça pose une vraie question. Aujourd'hui, l'endettement des entreprises est à un niveau historiquement élevé.
Plus élevé qu'en 2008, avant
la
crise.
Quand on regarde les statistiques de la Banque de France, par exemple, eh bien on s'aperçoit que jamais l'endettement des entreprises n'a été aussi élevé depuis une trentaine d'années, et puis auparavant aussi. Donc, il y a une vraie question. L'autre point est que cet endettement ne fluctue pas. Et en d'autres termes, quand on regarde la situation, on imagine assez bien une situation où quand l'environnement économique est plutôt favorable, l'endettement des entreprises diminue parce que leur profitabilité augmente. Et puis, quand effectivement la situation se dégrade, les entreprises s'endettent. Et on devrait voir des fluctuations cet endettement, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas en France, ce qu'on voit dans d'autres économies. Donc là, il y a probablement du côté des entreprises françaises un vrai problème de profitabilité pour être capable de bénéficier des bons états de la nature, comme disent les économistes, pour améliorer leur profitabilité, réduire leur endettement, et puis dans les mauvais états de la nature, eh bien utiliser cet endettement. On n'a pas cette situation. Et puis du côté des ménages, eh bien on voit que les ménages sont toujours très endettés. Là aussi, il y a une progression de l'endettement, contrairement à ce qu'on voit dans des pays comme l'Espagne ou d'autres, ou les États-Unis, où dans l'environnement actuel, eh bien, l'endettement a un peu tendance à se réduire.
Est-ce que c'est inquiétant aujourd'hui, cet endettement des acteurs économiques hors État ?
C'est ennuyeux pour une raison, pour la raison suivante. C'est que généralement, quand il y a un choc sur l'économie, l'État prend ce choc à sa charge, d'où l'augmentation de la dette publique, qu'on a vu après 2008. En 2008, au moment du choc, la dette publique n'est pas un problème. Elle est partout assez réduite. Mais l'État, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, l'État prend en charge ce choc et le répartit dans le temps via la dette publique. Le souci aujourd'hui, c'est que cette dette publique fait 100% du PIB, un petit peu moins en France. Donc, un niveau qui est quand même très élevé. Et donc, si la question qui est posée, au-delà des questions climatiques qu'on évoquait, la question qui est posée, c'est en cas de choc sur l'économie, est-ce que l'État aura cette capacité à amortir le choc de la même façon ? En d'autres termes, est-ce qu'on ne va pas avoir un certain nombre de spécialistes qui vont nous dire « Ouh là là, la dette est trop élevée, on ne peut pas aller au-delà ». Mais ça veut dire, dans ce cas-là, que l'ajustement au choc sera porté par les entreprises et les ménages. Et là, ça peut être beaucoup plus douloureux sur le plan macroéconomique.
Toute la difficulté, finalement, c'est de fixer une limite à la dette ?
C'est une vraie question. On a la théorie économique ne nous donne pas d'explication, ne nous donne pas de niveau à partir duquel le niveau de la dette serait trop élevé. Il y a quelques années, deux économistes américains avaient un peu réduit cette méconnaissance sur la dette en disant « quand la dette est à 90% du PIB, eh bien l'activité s'essouffle très vite, etc. » Alors les économistes étaient contents. On avait enfin une norme sur la dette publique. En fait, ces calculs étaient totalement faux. Et donc, on se retrouve à nouveau dans une situation un peu compliquée parce que on ne sait pas quel est le bon niveau de la dette publique. Est-ce que c'est 30%, 0%, 50%? Il y avait une question qui avait été posée à la fin du deuxième mandat de Clinton aux États-Unis, puisque l'État était en excédent. Et on imaginait, on se souvient, Greenspan, qui était président de la Banque centrale à l'époque, américaine, disant, que va-t-il se passer si on n'a plus de dette? L'importance de la dette publique, c'est de transférer la richesse dans le temps. C'est-à-dire que votre assurance vie va être transférée dans le temps, en grande partie adossée à de la dette publique française. Donc cette dette, sur laquelle il y a peu de risques, est un très bon support dans le temps. Donc il en faut. Zéro dette n'est pas un état optimal. Mais après, est-ce que c'est 30, 50, 100%? On ne sait pas très bien. Alors on a envie d'être pas trop élevé. Alors en zone euro, on avait les fameux critères de Maastricht, disant 60%. Donc tout le monde se cale un peu ou prou autour de ces 60%. C'est un calcul de coin de table qui avait été fait à un moment donné, mais qui n'a pas de fondement théorique très, très particulier. Donc c'est aussi cela, la difficulté de la dette publique. C'est qu'on ne sait pas à quel moment ça devient trop important.
Merci Philippe Vechter d'Ostrom Asset Management. Merci à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos.
Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi.
La story, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
On s'enrichit aussi en écoutant le podcast des Échos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Jusqu'au ciel, sur la place du marché.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Life's better with American Family Insurance, because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.